À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord Isère.
Animé par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.
Bonjour, bonsoir Laurent, bonjour, bonsoir Serge.
Bonjour à tous les deux.
Tout va bien ?
Tout va bien.
Bien. Puisque tout va bien, on va commencer cette émission par des nouvelles brèves, on va dire, concernant nos amis italiens. On a ces dernières émissions, durant ces dernières émissions, on avait parlé beaucoup d'Eri De Luca, on avait parlé de la Foire internationale de, enfin, l'Expo internationale de Milan, on a même invité de jeunes gens ici du lycée qui étaient partis avec leur professeur. Alors cette Eri De Luca, on craignait, on pensait la peut-être culpation. Que, enfin nous on n'y croyait pas beaucoup, on l'avait dit, hein, qu'il serait inculpé, qu'il ferait peut-être de la prison. Il disait d'ailleurs que s'il était condamné, il irait. Alors on rappelle, hein, parce qu'il appelait au sabotage des voies pour que le Lyon-Turin ne se fasse pas. Sabotage même au sens large, pas que des voies. Et tout ça se jouait sur le mot sabotage, etc.
En lien avec le terrorisme.
Voilà. Et Eri De Luca n'a pas été condamné. Je pense que ça aurait été sans doute très difficile de le faire, vu la masse de gens qui l'ont soutenu. Et puis bon, ce qui, il n'a pas commis de crime, Eri De Luca. Voilà, enfin bref. Et donc, Eri De Luca relaxé. Et sinon, ben, l'Expo internationale de Milan est terminée. On rappelle que le sujet était nourrir la planète. Alors, quelle conclusion on peut tirer? Fréquentation, visiblement, il y a eu effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, à ce niveau-là, succès. Au niveau du... comment pourrait-on dire, du respect du thème, ben, comme dans tous les thèmes de ce style, il y a les contents et les déçus. Est-ce qu'il a vraiment été respecté? Il y a eu beaucoup de marketing, on le sait, il y a eu beaucoup de sociétés qui étaient là, est-ce qu'elles devaient y être, pas y être, ça a été l'éternel débat, comme le débat de la future COP21, comme le sommet de Copenhague il y a quelques années. Si on en tient compte, de tout ce qui est écologie, entre parenthèses, entre guillemets, ben déjà tous les bâtiments qui ont été créés, peu resteront. Le bâtiment italien restera sur place. Les bâtiments étrangers, certains les rapatrient chez eux pour les installer
à la prochaine,
à un endroit ou à un autre, mais... peu, en fait, le bâtiment français.
Oui, c'est le bâtiment français
va être récupéré pour la France. Hein. Et puis, il y a beaucoup de bâtiments qui partent aux poubelles. Alors là, développement durable, un peu. Développement durable n'a pas duré. Mais oui, alors il y a aussi ça, par contre. Et sinon, bon, bah, l'intérêt, c'est peut-être quand même qu'il y a une sensibilisation, notamment de la jeunesse, et qui a pu s'exprimer là-dessus. Et nos lycéens l'avaient fait.
Slow Food développer un mouvement avec les jeunes, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est Teramat Giovanni, je crois, quelque chose comme ça.
D'accord, mais c'est bien, ils ont bien raison, parce qu'il faut y penser, nos jeunes. Alors par contre, et j'ai surpris une conversation l'autre jour dans un restaurant bergalien d'ailleurs, de gens qui revenaient les derniers jours de l'Expo de Milan, et une dame disait entre autres ce que beaucoup ont dit, mais finalement, pour ceux qui ne la connaissaient pas, cela nous a donné l'occasion aussi d'aller visiter la ville de Milan, et on a été drôlement surpris parce que finalement c'est une belle ville, on la considère toujours comme une ville industrielle et qui n'a pas d'autres points d'intérêt.
La banlieue qui est très industrielle.
Voilà, et en fait non. Voilà donc pour le feuilleton De Luca et Expo Milan. Voilà, sinon, début novembre, donc, on a fêté, si on peut dire, on a commémoré, si on peut dire aussi, l'anniversaire de l'assassinat de Pasolini. Alors, en deux mots, Pier Paolo Pasolini, parce qu'on pourrait traiter plusieurs émissions là-dessus. On se rappelle qu'il était écrivain, poète, journaliste, scénariste, qu'il était né en 1922 à Bologne, et il est décédé donc dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, pas loin de Rome, vers la plage de Ostie, l'ancien port de Rome. Enfin bon, je passe les détails, mais il a été tué à coups de bâton, puis écrasé par sa propre voiture au volant duquel il y avait quelqu'un. Qui était ce quelqu'un? On a arrêté un jeune de 17 ans, jeune prostitué de 17 ans, qui était Giuseppe Pelosi, qu'on appelait Pino la grenouille. Donc on l'a arrêté. Il s'est accusé lui-même après. Il a dit oui, j'ai fait ce crime. C'est un crime homosexuel. Bon, il fait allusion à Pasolini et ses fréquentations. Donc il a été condamné. Coupable d'homicide volontaire avec le concours d'inconnus, parce que visiblement il y avait plusieurs personnes. Il avait été condamné à 9 ans et 7 mois de prison. Mais on n'avait pas quand même de preuves que le crime avait été commis. Il disait l'avoir commis avec d'autres, mais on n'avait pas de preuves. Voilà, l'aveu, c'est tout. Il n'y a que son aveu qui permettait de le condamner, on va dire. Voilà. Alors après, il a été en semi-liberté, puis liberté conditionnelle. Et puis en 2005, il fait volte-face. Il dit non, c'est pas moi, non pas du tout. Je suis innocent. Et ce sont les autres qui ont tué Pasolini. Mais ils donnent pas leur nom, comme par hasard. Et ils disent, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est des gens qui avaient un accent sicilien. Mais voilà. Et j'ai pas voulu dire qui ils étaient. Je veux toujours pas le dire, mais je me suis accusé pour protéger ma famille. Voilà sa version.
C'est obscur.
C'est très, 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 très obscur. Alors après, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a encore toujours beaucoup de discussions, beaucoup d'émissions même faites là-dessus, même en France. Parce que on sait pas trop, en fait. On sait pas s'il a vraiment été tué par ce jeune homme ou par des malfrats. On sait pas si l'origine du crime est son appartenance au milieu homosexuel avec des vengeances amoureuses, on va dire, entre guillemets. On sait pas. Il y a aussi une sorte de théorie qui court, c'est que il aurait pu être assassiné parce que il avait on connaît ses idées, c'est un gars qui était très à gauche, sans appartenir pourtant à un parti, il a toujours été contre les partis, mais il a beaucoup mis en cause la mafia, le monde des pétroliers, la CIA, il y avait eu Enrico Mattei, qui avait été responsable de l'ENI, l'Office national des pétroles et des hydrocarbures en Italie. Voilà, ce gars avait été assassiné en 62, et lui dit que s'il a été assassiné, il a fait quelques allusions, par qui, pourquoi, etc. Et un journaliste qui voulait révéler cette affaire avait été tué, par exemple.
Ah, oui.
Et donc, dans le roman des massacres, en 1974, il disait qu'il connaît des personnes importantes qui, avec l'aide de la CIA et de la mafia, auraient mis en œuvre une stratégie qui aurait été à l'origine de vagues de terrorisme, etc. Et puis, il avait... ce qui est plus troublant, c'est vrai, c'est qu'il avait, autour de toutes ces affaires, il avait commencé à écrire un roman qui s'appelle Petrolio en italien, qu'il n'a pas pu achever, où effectivement il parlait de ses affaires, du pouvoir politique de l'ENI.
Il a été publié après
de... Et alors, il a été publié, oui, mais il est paru au titre posthume, bien sûr. Mais comme par hasard, les pages où il faisait allusion à tout ce côté mafieux, combine, CIA, mafia, etc. Disparu. Ce qui renforce pour certains l'idée du complot. Mais en fait, On ne sait pas, et on ne sait toujours pas. Alors, il y a beaucoup d'hommages en France ou en Italie. Moi, il se trouvait que je travaillais en Italie quand il est décédé, et Pasolini faisait débat de son vivant, et il a fait débat le jour de sa mort aussi, parce que dans tous les lieux de travail, ou de bistrot, quoi, les gens discutaient, c'était la conversation. Oui, mais il était ci, non, il n'était pas ça, et puis c'était toujours pareil. Il a toujours beaucoup divisé et beaucoup aussi enchanté. On disait qu'il était très visionnaire. Donc il y a beaucoup d'hommages, que ce soit en France ou en Italie.
Ses principaux films, c'est quoi?
Oh, il y avait Salo, il a une cinématographie tellement large. Il y avait, je les ai plus tous en tête. Hein, mais il n'était pas que on le connaît en France.
Oui, moi, je le connais que comme cinéaste.
Non, mais il a écrit beaucoup. Il a écrit même des chansons. Hein, enfin, il y avait Acatone qui était un de ses plus, un de ses premiers films, mais qui était le pratiquement le plus connu en France. Alors, quelquefois, il avait pu, en France, faire diffuser ses films dans quelques ciné alors qu'il ne l'était pas encore en Italie. Bon, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait Acatone, et je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il avait fait? Ben oui, Salo, j'en ai parlé. Ils vont me revenir, je les ai plus en tête. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était un grand monsieur, et puis que... En fait, comme dirait Moravia, il est mort comme il a vécu, c'est-à-dire tout autour de lui est très mystérieux, en fait. Alors, il y a un autre décès dont on a très, très peu parlé, pour quelqu'un que personnellement, et je ne suis pas le seul, aimait beaucoup. On va parler d'immigration tout à l'heure, mais là, je parlais d'un immigré qui n'était pas un fils d'immigré italien, mais un fils d'immigré espagnol, c'était Lenio Escudero. Alors, nos générations connaissent Lenio Escudero, même si on le connaissait au niveau médiatique uniquement pour une ou deux chansons, comme pour Une amourette, mais en fait, il a fait des textes très, 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 très forts. Et Lenio Escudero, son père avait fui sous le franc. Il racontait d'ailleurs quelque chose de très intéressant, c'est qu'il vivait dans un village retiré, et puis que ce soit les pro-franquistes ou les anti-franquistes, celui qui venait parler et bien parler, quelquefois les habitants les suivaient sans trop savoir. Enfin, lui, bon, le côté a été anti-franquiste. Et là, on va l'entendre, je pense que c'est son seul enregistrement en italien, parce qu'il avait publié un album qui s'appelait Chante la liberté, où il avait chanté des chants espagnols, des chants français, et Bella Ciao en italien. Alors, son italien est loin d'être parfait, mais c'était sympa de lui rendre hommage. Pour avoir aussi enregistré Bella Ciao, et puis pour tout ce qu'il a fait. Il était maçon, il avait construit, il avait construit une école au Bénin, c'était un gars bien, Lenio Escudero.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Zio mio, io da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Zio mio, io da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra d'un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che va serano, libirano, che bel fior. E questo è il fior del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fior del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fior del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fior del partigiano, morto per la libertà.
Voilà, Linus Scudero, alors au mois d'octobre, il y a eu en Italie vous savez, le Club Tenco qui avait été fondé à Sanremo en 1972 par un groupe de passionnés de la chanson, d'auteurs. Suite, on va pas refaire l'histoire, hein, c'était suite au décès de Luigi Tenco qui avait participé au festival de Sanremo, qui s'était suicidé.
Il n'avait pas été gagnant.
Entre autres, oui, mais fait, qui voulait mettre en avant le fait que de bonnes chansons n'étaient pas toujours récompensées. Et donc ce festival chaque année a lieu. Et chaque année, il désigne des prix, les Targhe Tenco. Alors cette année, des prix qui sur une carte, on va dire, d'identité artistique, sont appréciés parce que ce sont souvent des gens et des textes de valeur qui sont honorés. Alors cette année, le titre de meilleur album a été attribué à Mauro Ermano Giovanardi avec Il mio stile, qui a eu donc ce prix. L'album en dialecte a été à Cesare Basile, le prix du meilleur album en dialecte. Le prix de la première œuvre a été à La Scapigliatura, qui a eu ce prix, et le titre de l'album est le même que le groupe d'ailleurs. Et puis il y a un prix qui est un prix d'interprète, qui donc ce sont des groupes ou des chanteurs qui ne chantent pas leurs propres chansons, et c'est le groupe Tête de Bois, sur lequel on reviendra, qui a eu ce prix. Et la meilleure chanson a été attribuée au titre Il senso delle cose de Cristina Donna. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu encore dans ce Club Tenco et cette remise de prix du mois d'octobre, comme chaque année? Il y a eu un hommage à Francesco Guccini, qui a plus de 50 ans de carrière, hein, qui est un des grands auteurs-compositeurs italiens avec Fabrizio De André ou Francesco De Gregori. Et il est de Reggio Emilia, hein, Francesco Guccini. C'est vraiment un grand de la chanson italienne. Et comme Pasolini avait plusieurs cordes à son arc, Francesco Guccini écrit aussi, il écrit des romans, c'est vraiment quelqu'un de grande valeur, et le Tenco lui a rendu hommage. Lui-même est venu chanter, des amis à lui sont venus, comme Roberto Vecchioni, Vinicio Capossella. Et voilà, donc pour résumer ce Club Tenco et les prix du mois d'octobre 2015. Alors je parlais de Tête de Bois. En fait, Tête de Bois a eu un prix.
C'est un groupe français
ou... Pas du tout. C'est un groupe italien.
Ce serait non, c'est que des Italiens.
Non, il y a aussi des artistes étrangers qui viennent. L'année passée, par exemple, Stromae avait eu un prix. Il y a beaucoup de chanteurs français qui sont allés, de grande qualité. Hein. Et Tête de Bois est vraiment un groupe italien. Par contre, c'est un groupe qui est très lié à Léo Ferré. Parce qu'un des chanteurs du groupe était très lié à la famille, en fait, de Léo Ferré. Et ils ont souvent rendu hommage à des auteurs et chanteurs ou des poètes. Et Léo Ferré a été un de ceux qu'ils ont le plus chanté, puisqu'ils ont eu un prix justement là pour en chantant de nouvelles chansons, enfin de nouvelles chansons. Ils avaient déjà fait un premier album sur Léo Ferré, ils en ont fait un deuxième, et c'est ce deuxième album qui a été récompensé, mais ils ont toujours beaucoup chanté Léo Ferré. Ils ont chanté aussi Rimbaud, pour parler de français, même si Ferré il a aussi une moitié français, moitié italien. Et voilà, alors on va les entendre justement. Dans le disque précédent, qui était un hommage à Ferré, L'amore et la rivolta, et on va l'entendre dans, on va les entendre dans le groupe, dans le titre, pardon, Sono chi sai, qui est la traduction de l'album français, de la chanson française qui s'appelait La Marche, qui avait été composée par Léo Ferré et traduit par Giuseppe Gennari. Et dans la foulée de Léo Ferré, vu par Tête de Bois, on entendra un morceau de Guccini, de Francesco Guccini, Dio è morto.
Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze da pastiglie trasformate, lungo alle nuvole di fumo nel mondo fatto di città, essere contro di ingoiare la nostra stanca civiltà. È un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto prese a rate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria o dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, perché di fatto è di abitudine e paura, una politica che solo fa carriera, il darwinismo interessa, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto. È un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto coi miti della razza, Dio è morto gli odi di partito, di morto. Ma penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, a una speranza appena nata, ad un futuro che è in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore per tre giorni e poi risorge in ciò che noi crediamo, Dio è risorto in ciò che noi vogliamo, Dio è risorto nel mondo che faremo, Dio è risorto.
Alors les applaudissements vont à Francesco Guccini, ou non pas à moi, parce que on a passé d'abord Dio è morto de Francesco Guccini, accompagné par I Nomadi, un groupe italien, lui aussi très connu en Italie. Et on va donc maintenant entendre Tête de bois. J'ai retrouvé, j'arrivais pas à trouver tout à l'heure le film dont je voulais parler, qui était aussi très connu de Pasolini, c'était L'Évangile selon saint Matthieu en plus, il était très connu, mais... J'oublie. Alors, Tête de Bois, donc, dans l'hommage à Léo Ferré, qu'on va entendre maintenant.
Ho la malattia nel sangue, vivo sempre sul momento. Quando il mio corpo langue devo stare bene attento, i vent'anni che son mai, i miei anta sono corti, pensi troppo, cosa fai? Non c'è tempo per i morti. Sono chi sai. Quando mi infilo nel letto, l'onda mi prende la mente, faccio sesso non protetto che mi godo vagamente, sono uomo del mio mare, ho la nebbia per sparire, uso il faro da lampare, io ti piaccio da morire. Dal silenzio in cui mi trovo, musicando foglie morte, uscirò, io mi ci provo, il successo è la mia sorte, ma son freddo come il gelo del fulgore sulla riva, far da velo nella camera del cuore. Sono chi sei. Profeta al femminile, Geremia da rose e cosce, un abbraccio nel cortile per rialzare essere mosce, banalizzo le mie noie, ogni giorno vado a pesca, nell'autunno delle foglie, pesco ancora carne fresca. I tuoi sensi, i tuoi umori, i tuoi sogni, i tuoi rimpianti, sono ombre di furori che racconto nei miei canti. Senti ora se ti piace il sì forte del mio grido, il mio sesso che non tace, entra dolce nel tuo nido. Sono chi vuoi. Chi vuoi, sono chi vuoi.
Belle version. Tout à l'heure, on y a fait un petit peu allusion à l'immigration, en fait, l'immigration italienne en Haute-Isère. Depuis quelques années, on peut dire maintenant, on a au niveau de l'association INIS, qui anime cette émission sur Couleur FM 97.1, on a fait du collectage, c'est-à-dire qu'on a interviewé beaucoup de personnes dans notre chère Haute-Isère.
30-40, quelque chose
à peu près, oui, qui sont venus ou eux-mêmes ou leurs parents, souvent sont eux-mêmes d'ailleurs, qui sont venus d'Italie, alors à des âges différents peut-être leur arrivée. Et on a tout ça en boîte, si on peut dire, à la fois du son et des transcriptions. Et on s'est toujours posé la question de que faire maintenant avec tout ce matériel. Alors il y a plusieurs orientations qui ont été prises. Il y a un groupe qui travaille sur du récit, un groupe sur du théâtre, un cahier sans doute. Et il y a tout cet aspect sonore qui est très intéressant et qu'on s'est promis de diffuser au fil de nos émissions à l'écoute de l'Italie. Et on va commencer donc aujourd'hui avec Serge. On va aujourd'hui, je crois qu'on va entendre trois extraits de
témoignages. On va parler de trois familles, mais entendre un seul témoignage.
Voilà, un seul témoignage sur trois familles. Enfin, un témoignage correspondant, mais trois familles qui ont été parmi la trentaine, un peu plus, que l'on a effectivement interviewé. Voilà. Tu veux qu'on commence par une chanson, peut-être ?
Si tu veux, oui. Alors, le thème est l'immigration ?
Oui, alors des chansons sur l'immigration, il y en a énormément en Italie, vraiment beaucoup, parce que les Italiens ont effectivement beaucoup immigré, que ça soit... On dit qu'il y a plus de 27 millions d'Italiens qui avaient quitté le pays, c'est pour ça qu'on chiffre les Italiens ou descendants d'Italiens dans le monde
millions,
à 60 millions.
Ce qui fait un pays.
Oui, ce qui fait un pays. Mais il y a vraiment 27 millions d'Italiens qui ont immigré dans le monde, beaucoup en Amérique du Sud, beaucoup au Brésil, en Argentine notamment, qui sont deux des pays où ils ont le plus immigré, et les États-Unis, le Canada, l'Europe, bien sûr, la France aussi. Et donc on va entendre une première chanson qui s'appelle « L'altro giorno andando in Francia ». parle de soi-même, hein, l'autre jour en allant en France, c'est-à-dire en émigrant. Et on va entendre ce morceau par le groupe Incanto, qui est lui-même un groupe d'immigrés italiens qui mêle des Italiens et des immigrés italiens de la région de Toulouse et qui a fait un bel album, et pas qu'un bel album, ils font de beaux spectacles autour de cette immigration italienne et des livrets. Puis ils ont travaillé aussi notamment avec Gualtiero Bertelli, dont on a parlé souvent ici, un chanteur vénitien. Voilà, alors on va écouter ce premier morceau, L'altro giorno andando in Francia. Voilà. En fait, ce chant est un chant de la région de Rome, un chant du Latium qui avait été écrit au début des années 1900, quand beaucoup d'émigrés de la région de Rome étaient venus en direction de la France. Voilà. Alors, c'était le groupe Incanto avec Giovanni Canzanella au piano, Americo Piaggesi à l'harmonica, à la mandoline. Alex Charalambide, parce qu'il y a aussi des Français dans le groupe, et Tourny à la basse et contrebasse, et puis tout le groupe au chant. Alors, Serge.
Alors, donc, on va commencer à parler d'immigration. Et avant de rentrer dans des cas concrets, j'ai rassemblé quelques les éléments pour brosser le décor un petit peu. On a commencé à le faire tout à l'heure avec le nombre d'émigrés. La période, grosso modo, c'est après l'unité italienne, jusque dans les années 60. À peu près, ça s'est étalé sur une centaine d'années. Les gens venaient de six régions, principalement, le Piémont, la Lombardie, la Vénétie, Vénétie julienne, Campanie et Sicile. Et ces six régions, sur la vingtaine qu'il y a en Italie, je crois quelque chose comme ça.
21, il y en avait, oui, à l'époque.
Ces six régions fournissent 60% des candidats à l'immigration. Donc la raison principale, c'est d'abord manger à sa faim tous les jours. Et puis, dans une période un peu particulière entre les deux guerres, il y avait des raisons politiques, en particulier les gens du communiste qui voulaient fuir le fascisme. Les pays d'accueil se répartissent en deux groupes à peu près égaux, c'est-à-dire d'abord l'Europe et puis le restant du monde. Alors bon, les chiffres, peut-être pas très précis, parce qu'il y a une immigration définitive, une immigration saisonnière, mais en gros c'est l'Europe et dans l'Europe, beaucoup la France. Savoir qu'il y a une grosse colonie aussi en Argentine.
En Argentine, oui. Mais de toute façon, la langue officielle argentine est l'espagnol, mais longtemps, on a même pensé en Argentine mettre l'italien. Mais bon, après, comme les Italiens étaient de régions différentes et ceux qui émigraient à l'époque ne parlaient pas vraiment l'italien, mais des langues régionales, l'espagnol a été choisi. Mais c'est dans tout le nom de la musique ou du sport argentin, vous avez beaucoup de noms italiens, c'est évident.
Donc si on veut faire une légère comparaison avec la France aussi avait des régions pauvres, la Savoie, la Creuse, etc., la Bourgogne. Et en France, l'immigration était plutôt interne, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières.
Notamment l'Auvergne à Paris.
Alors le schéma classique du foyer qui immigre, c'est l'homme qui part en premier avec un point d'appui, donc un frère, un oncle, un cousin, un ami, qui est déjà en France. Ce point d'appui trouve du travail au candidat à l'immigration. Et puis, c'est d'abord donc l'homme qui vient en premier, et ensuite la femme et les enfants. Voilà le schéma classique. Et dans les personnes qu'on a interviewées, j'ai trouvé trois schémas qui sont un peu différents. C'est ceux qu'on va évoquer aujourd'hui. Il y a d'abord Monsieur Tonnegier, où la décision de partir n'a pas été prise par l'homme de la famille, mais par la femme. C'est-à-dire que la femme était divorcée et s'est posé la question de revenus. Et donc, c'est la femme, sa mère, qui ont décidé d'émigrer. Et donc, on va entendre Monsieur Giovanni Tonnegier nous parler de sa venue en France.
J'avais 7 ans.
7 ans. Et vous pouvez nous décrire la famille en Italie, avant, comment on vivait chez vous?
Je me souviens vaguement. Bon, en fait, on n'était pas très, très riches, bien entendu. Mes frères, ils avaient 18 ans. Ils avaient faim, comme tout le monde. C'était après la guerre.
Et vos parents, ils faisaient quoi comme activité?
Mon père était séparé avec ma mère.
D'accord.
Ma mère était toute seule. C'était dur, quoi. Alors bon, mais elle avait décidé, puisque ma grand-mère, elle vivait avec, on avait décidé de venir en France. Ma grand-mère disait, on va en France. Elle avait déjà 2 enfants qui étaient ici, qui étaient venus avant.
Ah, oui.
Et puis, ma mère a tout vendu ce qu'on avait, les meubles, le machin, tout ça. Puis on a décidé de partir, donc j'avais mes deux frères, jumeaux, ma soeur, moi, ma grand-mère, il y avait, donc ma mère, monsieur, un cousin qui a dit, je pars avec vous, qui avait l'âge de mes deux frères jumeaux, j'avais 18 ans à cette époque, et puis ils ont dit, on part. Bon, elle avait un petit peu
de temps pour prendre le train. Toute la famille qui est partie, là.
Oui, on a décidé de partir, enfin ma mère, mais la famille. Elle a décidé de partir, on part, elle avait tout vendu.
Parce que
elle avait pris sa machine à coudre en pièces détachées, elle avait foutu dans une valise, Parce qu'elle était couturière de métier, ma mère. Je peux toujours servir, mais elle m'a fait ça après qu'elle nous a jamais servi. Et on a décidé de partir. Bon, on a pris le train. Arrivé à Milan, il y a eu contrôle de papier. À cette époque, c'était en 45, en 47, quoi, 26, il y avait pas mal de contrôle dans les trains. Et on n'avait pas de papier. Et vous allez où comme ça? On va en France. On a dit, bon, on va en France. Ah bon, vous allez où en France? On avait l'adresse de mes frères qui étaient déjà venus avant, à pied. Elle dit, bon, on va du côté de Bourgoin. Ben bon. Vous avez du travail là-bas? Non. Vous avez un logement? Non. Ben, désolé. Ils nous ont mis dans une grande salle.
À Milan, ça.
À Milan. Dans un gymnase, où on n'était pas les seuls d'ailleurs.
Oui.
Ils nous ont tous mis là-dedans. Après, le soir, ils nous donnaient la soupe populaire. Mais on était tous dans cette grande pièce, on couchait par terre.
Ça a duré combien de jours
là? Ça a duré 3 semaines.
Voilà, donc le départ de la famille Tonéiguier qui venait de Vénétie, entre Venise et Trieste.
Beaucoup de notre région viennent de Vénétie.
Donc, oui.
Beaucoup, notamment de Bergeliens, de gens de l'île d'Abo viennent de Vénétie.
Et donc ce stationnement
milanais
pendant 3 semaines. Ah. Donc on peut faire rapidement des parallèles avec ce qui existe maintenant. Alors, je ne me rappelle plus si c'est dans cette partie de l'interview ou si c'est après, mais à un moment, il dit « on est de Venise ». Alors, il emploie le présent « on est de Venise ». Hein. Donc, ce présent qui en dit long. Quoi.
Oui, et puis souvent, arrivé en plus à un certain âge, il y a une sorte de retour aux origines et de se réclamer des origines.
Alors, M. Tonéiguier est venu en 1947.
Oui, donc il fait partie de l'après-deuxième guerre.
Voilà. Et donc, dans ce gymnase, il m'a dit après que le soir, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait le soir dans le gymnase? On chantait.
Mais oui.
On va écouter une chanson.
Eh bien, on va écouter une chanson qui s'appelle « On part tous en France ». Et tout y va en France. Alors, c'est « On part tous en France pour travailler, on va tous en France pour travailler. Mais comment je vais faire si tout le monde s'en va? Quelle tristesse, je vais rester seul au féminin. » On écoute donc cette chanson de nouveau par le groupe Incanto. C'est une chanson, elle, qui est pas loin de la région de Venise, puis c'est une chanson, un chant populaire de la région de Trento, donc du Trentin.
Si va a girare il mondo in cerca di fortuna.
Voilà, tu disais que ce monsieur se dit « je suis de Venise », mais dans cette chanson, on va en France, donc travailler, bien content d'y trouver du travail d'ailleurs, et puis on dit « mais nous reviendrons à San Martino, nous reviendrons pour te retrouver, nous reviendrons » et la bande, enfin le groupe, la fanfare, je cherchais le nom, bon, jouera, et ce sera une grande fête, et nous irons faire l'amour.
Ah.
Comme il y a un espoir de retour au gay, finalement.
Alors, la deuxième personne qu'on a retenue, c'est Madame Costabel, dont le père est né en 1895, et il a quitté le Piémont en 1920, c'est-à-dire à 25 ans. Cette famille est d'origine du village de Pramolo, près de Pinerolo, dans les vallées vaudoises. Et donc là, c'était une sorte de référence locale, culturelle, puisque les Vaudois ont déjà, il y a bien longtemps, émigré pour fuir les persécutions. Donc le père de Madame Costabel quitte le Piémont, mais il est né à Marseille. Alors il est né à Marseille, deux parents italiens qui s'étaient mariés à Marseille et qui étaient retournés dans leur région d'origine pour des raisons familiales, c'était la maladie d'une maman. Donc on a un couple d'Italiens dont le mari est né en France, qui retourne dans le Piémont et qui ensuite revient en France. Donc c'est en quelque sorte une seconde émigration. Et au cours de cette seconde émigration, donc c'est toute la famille qui vient. Donc il y a le mari, la femme, la mère de la femme et sa sœur. Et cette famille arrive à Bourgoin. Puisque le mari avait deux frères qui y étaient déjà. Donc on voit dans cette période d'immigration que dans ce cas présent, il y a eu des allers-retours, ce qui a introduit beaucoup plus de difficultés et puis beaucoup plus d'incertitudes, de changements. Alors, Un autre cas, c'est le père de Monsieur Victor Grillo, qui lui a quitté l'Italie parce qu'il avait déjà fait 7 ans d'armée en Éthiopie. Et l'étape suivante pendant les années Mussolini, c'était d'aller se battre en Grèce. Donc il a trouvé que 7 ans, c'était déjà pas mal. Et il n'a pas voulu aller en Grèce. Donc il a émigré en France pour cette raison. Et donc son père avait peut-être bien fait, puisque tous ses amis qui étaient sont partis en Grèce, aucun n'est revenu. Et alors M. Griot, dans l'interview, rappelle comment Mussolini motivait les troupes pour partir à la guerre. Il invitait les jeunes recrues à partir en leur promettant qu'au retour, ils allaient trouver du travail. Rappelons que c'est entre les deux guerres, là. Ce qui, bien sûr, n'a jamais été effectivement le cas. Donc on voit ces trois exemples montrent qu'il y a des raisons qui ne sont pas seulement pour manger.
Des schémas différents.
Des schémas différents et doublement douloureux.
Doublement douloureux, puis on verra que les métiers aussi trouvés ici et les métiers d'origine sont très différents.
Très différents.
Bon, il y a des maçons, bien sûr, mais il n'y a pas que des maçons, loin de là même. Non, mais on a appris beaucoup de choses, choses qu'on connaissait, mais on a appris aussi beaucoup de choses par ce collectage, et on vous fera donc régulièrement on vous donnera des petits.
Voilà, infos. Donc je pense que la prochaine fois, on parlera de l'arrivée en France, enfin, on suivra une certaine chronologie, l'arrivée, ensuite l'intégration,
l'installation, voilà. Etc.
Une partie dans le travail.
Voilà. Alors maintenant, on va parler
de la guerre de
1914-18, mais qui en Italie a démarré effectivement en 1915, comme tu l'as.
Et c'est fini le 4 novembre, c'est ça ?
Oui. Alors, on va pas faire un historique de la guerre.
Non, on va faire de la géographie.
On va faire de la géographie. Alors bon, il y a eu beaucoup de batailles, la bataille de Caporetto, Vittorio Veneto, Isonzo. Mais nous, on va s'attacher, si je puis le dire, à un conflit sur le plateau d'Asiago. Alors Asiago, c'est dans le nord-est de l'Italie, et donc le front, c'était le front entre l'Italie avec et l'Autriche-Hongrie hein, de l'époque. Et donc en février 1916, les Austro-Hongrois avaient amassé des troupes dans le Trentin. Et puis, après, l'objectif de l'Autriche-Hongrie, c'était d'envahir la plaine de Vénétie pour aller occuper la ville de Venise. C'est donc là l'offensive de ce qu'ils appelaient la bataille des plateaux. Et c'était donc cette offensive qui devait leur permettre d'aller jusqu'à Venise. Alors, pourquoi on parle de ce plateau d'Asiago, qu'on appelle aussi l'Altipiano, le plateau? C'est parce que à Marseille, il y a une compagnie qui s'appelle, ma voisine s'appelle Cassandre, une compagnie de théâtre qui est dirigée par Nanouk Broch, qui a eu une sorte de commande par la région PACA de faire quelque chose sur le centenaire de la Première Guerre mondiale, puisque ce centenaire est commémoré pendant 4 ans en France par différentes manifestations. Et cette troupe s'est dit, mais bon, il y a déjà beaucoup de choses de faites, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et il se trouve que Nanouk Broch avait lu un ouvrage qui s'appelle « Un anno sull'altipiano », donc « Une année sur l'altipiano », qui sont en fait cet ouvrage raconte des faits de guerre, du conflit à ce front austro-hongrois italien. Et qui était écrit cet ouvrage par Emilio Lussu. Alors, qui était Emilio Lussu? C'était un officier de la Brigata Sassari, fleuron de l'armée italienne de l'époque, mais qui prenait des notes, en fait, sur son passage. Il a pris des notes pendant 1 an sur ce front. Alors, ce ne sont pas que des fêtes de guerre, ce sont aussi les rapports avec ses amis de l'armée italienne, qui souvent étaient de régions différentes. Il y a des problèmes de langue, des problèmes de rapports, etc. Et c'est un ouvrage qu'il n'a pas écrit tout de suite, parce qu'il n'a fait que prendre des notes, et poussé par ses amis, qui trouvaient ça assez bien écrit et poignant, il a écrit son ouvrage 20 ans après. Et cet ouvrage a été traduit par plusieurs traducteurs dans différentes langues. Il a eu un succès incroyable. Et il a été traduit en français par Emmanuel Genevois et par Josette Montfort. Donc cet ouvrage, il est en vente en France depuis longtemps dans sa version française, et on le trouve aussi dans la version italienne. Donc Nanouk Broch a eu l'idée, à partir de cet ouvrage, de monter une pièce qui s'appelle « Une année sur l'altipiano ». Alors c'est très curieux parce que l'ouvrage italien s'appelle « Un anno sull'altipiano ». La traduction française était « Les hommes contre », qui a été aussi le titre d'un film de Risi qui s'appelait « Les hommes contre ». Mais la pièce de théâtre qui s'inspire de la version française prend en fait la traduction littérale du titre italien qui est « Une année donc sur l'altipiano ». Donc on a organisé Nice, pas tout seul, avec le comité de jumelage de Villefontaine, avec la librairie Majolire, et je peux le dire avec le lycée Delorme de l'île d'Abonne. On organise 3 événements. Le premier, il aura lieu le 19 novembre à 18h à la librairie Majolire. Ce sera une table ronde qui sera animée par Dominique Molin, que tout le monde connaît ici à Couleur FM, qui va l'enregistrer d'ailleurs pour Couleur FM, cette table ronde contre Couleur FM 97.1. Et le thème sera « Traduire, diffuser le souffle de l'auteur ». Et il y aura la présence de Nanouk Broch et d'Emmanuel Genevois, une des traductrices. Parce que ce sera le moment de montrer comment on part d'un bouquin en langue étrangère pour le traduire dans sa propre langue, donc celle d'Emmanuel Genevois. Et ensuite, comment du bouquin d'Emmanuel Genevois, on arrive à une pièce de théâtre, qui est une autre forme de traduction. Ça, c'est donc le jeudi. Le vendredi, donc là, en cercle fermé à l'intérieur du lycée Delorme, Laurent Sozou, qu'on avait invité là avec ses élèves pour l'expo de Milan, a travaillé sur l'ouvrage en italien « Un anno sull'altipiano ». Et il y aura donc une rencontre avec Nanouk Broch et Emmanuel Michel Genevoix va d'ailleurs y aller aussi, pour parler de bon d'extraits du livre, et faire quelques lectures et demander à tous ces jeunes gens leurs impressions. Et puis, le clou de ces trois jours va être le samedi 21 novembre à 20h30 à la salle Balavoine de Villefontaine, où là, on aura donc la présentation de cette pièce qui relate tout cet aspect du front italien et austro-hongrois. Alors l'originalité, c'est que la pièce va être jouée par trois jeunes filles. Joue le rôle de soldat italien. Non, mais la pièce, et c'est une des originalités de cette pièce, sera jouée par trois jeunes filles, dont une est originaire d'ailleurs de Bourgoin, ce qui est un hasard. Alors, je vais vous passer un extrait d'une des chansons, des nombreuses chansons qui ont été écrites sur cette Première Guerre mondiale en Italie. Vous pouvez aussi vous écouter, j'en suis sûr, l'autre émission qui est Sono Solo Canzonette, animée par nos amis Jean Guichard, Angelo Solima et François Gibaja, qui eux en ce moment font écouter des chansons de cette Première Guerre mondiale. Donc là, on va nous en écouter une qui s'appelle tout simplement Col primo colpo Asiago è stato colpo, et donc qui fait référence au début de la guerre sur le plateau d'Asiago.
Col primo colpo Asiago è stato colto, con il secondo tirava un po' a sinistra, ma poi col terzo bisognava averla vista. Le è andato sulla piazza dell'alpinista, ma poi col terzo bisognava davvero vista. Le è andato sulla piazza dell'alpinista. Al 24 maggio da Asiago andare a Gallio, tutta la gente si vedeva scappar via. E tutto per i colpi dell'Austria artiglieria, come tiravan giusto, mamma mia. E tutto per i colpi dell'Austria artiglieria, come tiravan giusto, mamma mia. Anche ste pore mamme, coi loro cari bambini, sui confini col cuor piangente non sapevano che cosa fare, dove lasciare le case abbandonate. Col cuor piangente non sapevano che cosa fare, dove lasciare le case abbandonate. Signorine con le cotolette strette facevano i passi corti, ma andavano molto in fretta. Tutte triste e spaventate scappavano in pianura, come le tirava i salti dalla paura. Tutte triste e spaventate scappavano in pianura, come le tirava i salti dalla paura. Tutti i borghesi trovavano dispiacere veder quei colpi cascarsi sui paesi. Tutte le case crollavano giù per si sono accorti allora della guerra. Tutte le case crollavano giù per terra, si sono accorti allora della guerra.
Voilà, donc cette chanson fait allusion au bombardement d'Asiago qui est arrivé, qui était devenu le matin du 15 mai 1916. Et c'est une chanson qui a été créée après le conflit, une chanson populaire. Et elle dit donc, par le premier coup, Asiago a été pris. Et puis après, deuxième coup, troisième coup, tout le monde a dû aller sur la place de l'alpiniste. Et ensuite, là, on a vu les gens partir sous les feux de l'artillerie autrichienne. Mamma mia, comment ils tiraient juste. Et même ces pauvres mamans avec leurs chers enfants devaient laisser leur maison avec le cœur pleurant. Elles ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Elles devaient laisser leur maison. Les jeunes filles faisaient des pas très courts, mais allaient très vite. Effrayées, elles s'échappaient dans la plaine. Et tous les bourgeois, eux aussi, voyaient leur maison tomber par terre, s'écrouler. Et ils se sont aperçus alors que c'était la guerre était arrivée, voilà. Donc, aux voix, on avait Monica Bassi, et Alessandra Bertazza, et Modesto Briand à la mandoline, Filippo Carollo à la mandolla, et Domenico Zamboni à la guitare. Donc, tous au théâtre de la salle Balavoine,
Le samedi 21 novembre à 20h30.
Voilà, et puis nous, on se retrouvera le mois prochain.
Le mois prochain ou l'autre.
Pour d'autres références à l'immigration, à notre travail sur l'immigration et d'autres sujets, bien sûr. Merci Serge.
Merci Laurent.
Toujours
de
brillant.
Couleur FM, de 97.1.
Le technicien que tout le monde nous envie. Bonsoir.
Bonsoir.
À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.